Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à vous si vous nous retrouvez, on est ensemble jusqu'à 20h. Le journal dans un instant, 19h20, le grand débat du Club des Idées. Comment lutter contre le fléau de l'inceste et des agressions sexuelles sur mineurs? La parole se libère, vous le savez, on reviendra sur les annonces faites hier soir à notre micro par le gouvernement. Sont-elles suffisantes? Comment en finir avec le tabou et la culture du silence coupable? On en parlera avec nos invités, et notamment la comédienne Andrea Bescon. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
La crise. Avec un bac plus 5, les jeunes pouvaient espérer, pour un premier job, un salaire moyen de 30 000 euros. Aujourd'hui, c'est plutôt autour de 23 000, une différence qui pèse énormément sur le budget.
23 000 euros par an. Cyberattaque contre l'hôpital de Dax dans les Landes. Le système informatique est hors service.
Les regrets de la présidente de la Commission européenne. Oui, dit-elle, nous avons sous-estimé le fait que certaines commandes de vaccins ne seraient peut-être pas livrées dans les temps.
5 000 euros d'amende requis contre Marine Le Pen et Gilbert Collard pour avoir publié sur Twitter en 2015 des photos d'exactions de Daesh.
Deuxième procédure de destitution contre Donald Trump, une première pour un président américain, mais Didier François nous dira que, pour autant, il ne risque pas grand-chose. Et puis, ne confondez pas CBD et cannabis. Des parlementaires souhaitent assouplir la législation afin que le CBD puisse être librement commercialisé en France, où la filière est déjà dans les starting blocks.
Et puis, la météo avec Anissa Haddadi, du froid et encore du froid demain.
Oui, d'ailleurs, le Grand Est est passé en vigilance. Les températures seront très froides demain dans le nord et en particulier le nord-est. 12 départements d'Alsace, de Bourgogne-Franche-Comté et de Lorraine sont ce soir en vigilance grand froid. Dans cette atmosphère glaciale, le soleil sera quand même au rendez-vous demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'emploi des jeunes en ces temps de Covid, c'est un vrai problème. On en parle régulièrement sur Europe 1 et surtout cette semaine, puisque vous savez que nous avons décidé de les aider, de les accompagner avec le hashtag Europe 1 solidaire et avec cette carte que vous pouvez consulter, carte interactive qui recense toutes les offres d'emploi sur Internet.
À la mi-journée dans La France bouge, vous receviez Emmanuel Duteil avec Elisabeth Assayag, Benoît Serre. Il est vice-président de l'Association des directeurs des ressources humaines et vous lui avez demandé si cette crise avait aussi un impact sur les salaires. Sa réponse est édifiante.
Comme il y a moins d'offres proposées et beaucoup plus de jeunes candidats qui cherchent un poste, les premiers salaires se sont effondrés ces derniers mois, selon Benoît Serre, vice-président de la NDRH.
Par exemple, quelqu'un qui sortait d'un bac plus 5, alors je prends cet exemple-là, mais on peut prendre d'ailleurs, qui se disait, en gros, à mon école, on sort de là à 30 000 par an, on va lui faire 23-24.
Alors, j'ai fait le calcul pour vous, ça représente plus de 20% de baisse de salaire. Du coup, certains retards de leur entrée sur le marché du travail, ça concerne surtout ceux qui ont déjà des diplômes et qui se réinscrivent pour une année, pour avoir par exemple une formation en plus. En tout cas, pour Benoît Serre, il faut en ce moment se préparer à devoir changer de région.
C'est un sujet pas évident pour les jeunes. On a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas trop quitter la zone où ils se trouvent, au moins au début. Ça, je pense que c'est une erreur d'analyse.
Ce qui est certain, c'est que les entreprises attendent d'avoir un petit peu plus de visibilité sur l'économie pour se remettre vraiment à embaucher.
Emmanuel Duteil, chef du service éco d'Europe 1. Le centre hospitalier de Dax dans les Landes cible d'une importante attaque informatique.
Alors ce n'est pas la première fois qu'un hôpital est ainsi visé par ce genre d'attaque attribuée à un rançongiel. Alors c'est déjà préoccupant quand ça vise une entreprise, ça l'est encore plus quand c'est un hôpital. Stéphane Place, quelles sont les conséquences concrètes?
Oui, bien en fait, tout le système informatique du centre hospitalier d'Aqua qui est affecté par cette cyberattaque avec une incidence, me disait la préfecture des Landes, sur certains matériels médicaux. Et puis, privé des ordinateurs et des accès aux données numériques, on en revient au crayon et au papier à l'hôpital comme ailleurs. Tout est informatisé, donc c'est un vrai cauchemar aujourd'hui pour les soignants et leurs collègues de l'administration. En pleine crise sanitaire, c'est aussi un acte odieux, dit Julien Dubois, maire de Dax et président du conseil de surveillance de l'hôpital de la ville.
Hélas, aujourd'hui, on sait qu'il faudra quelques semaines pour que nous puissions récupérer notre système informatique. Les problèmes qu'on rencontre font qu'il est beaucoup plus difficile d'accueillir de nouveaux patients. On privilégie surtout les urgences. On s'est aussi concerté avec le tissu de soignants libéraux pour qu'ils puissent assumer une partie des soins. Et puis on a d'autres types de maladies comme celles qui concernent les patients qui suivent des radiothérapies, toute la cancérologie, pour lesquelles on est en train d'organiser l'accueil sur d'autres centres hospitaliers de la région et à proximité, alors même qu'on ne peut plus le faire sur le centre hospitalier de Dax.
Et au regard de l'ampleur de l'attaque et de la complexité des investigations à mener, le parquet de Dax s'est dessaisi au profit de celui de Paris qui dispose d'une section spécialisée en cybercriminalité.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest.
L'épidémie de coronavirus, de nouveau au cœur d'un conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée. Il existe un chemin, pas large, mais il existe pour éviter le reconfinement. C'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui précise que la France est sur un plateau haut, mais légèrement déclinant.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a, elle, émis des regrets aujourd'hui concernant la gestion des commandes de vaccins. On peut même parler de mea culpa.
Nous étions très concentrés sur le développement du vaccin. Nous avons sous-estimé la difficulté liée à la production de masse. La science a dépassé l'industrie. La production des nouveaux vaccins est un processus très complexe. Il n'est simplement pas possible de mettre en place une site de production du jour au lendemain. Ces vaccins intègrent jusqu'à 400 composants et la production implique jusqu'à 100 entreprises. C'est pourquoi que nous avons créé une task force pour accroître la production industrielle des vaccins sous l'autorité de Thierry Breton, notre commissaire en charge du marché intérieur. L'objectif est de détecter les problèmes et d'aider à les résoudre. L'industrie doit s'adapter au rythme de la science.
La présidente de la Commission européenne au micro européen d'Isabelle Horry à Bruxelles. Notez qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, a indiqué cet après-midi que les premiers tests salivaires en France seraient déployés dans les hôpitaux parisiens dès demain et généralisés dès la mi-février, avec une priorité, les écoles, où ils sont bien sûr moins invasifs et moins inconfortables pour les enfants que les tests PCR classiques.
Une lueur d'espoir qui va permettre d'arrêter le grand n'importe quoi, c'est ce que dit Barbara Pompili, la ministre de la Transition écolo, à propos du projet de loi climat présenté donc aujourd'hui en Conseil des ministres.
Un texte en partie issu des propositions de la Convention citoyenne sur le climat, 69 articles, notamment meilleure isolation des bâtiments, encadrement de la publicité, limitation des transports polluants, création d'un crime d'écocide ou encore limitation de l'artificialisation des sols. Les écologistes lui reprochent un manque d'ambition. On l'a appris tout à l'heure, deux policiers mis en examen pour violence lors des manifestations des Gilets jaunes. C'est la suite de l'enquête qui avait été ouverte dans l'affaire de Jérôme Rodriguez il y a 2 ans. Vous savez, cette figure des Gilets jaunes qui avaient été grièvement blessés, qui avaient perdu un œil après manifestement un tir de LBD.
Marine Le Pen et Gilbert Collard devant la justice aujourd'hui pour avoir diffusé en 2015 sur Twitter des photos d'exactions de Daesh.
C'était quelques semaines après les attentats du Stade de France, du Bataclan et des terrasses parisiennes. Tous les deux contestaient toute volonté d'outrager et ils voulaient contester aussi la comparaison qui a été faite à l'époque entre leur parti, le Rassemblement National, et l'État islamique. C'est d'ailleurs ce qu'a encore réaffirmé aujourd'hui lors de ce procès Marine Le Pen, Chloé Triomphe.
Oui, en fait, Marine Le Pen avait demandé à son community manager qui gère son compte Twitter de prendre 3 photos sur Google montrant des exactions de Daesh et d'y accoler ce commentaire « Daesh, c'est ça », dans le but de dénoncer cette comparaison qu'elle estime indigne entre son parti et l'organisation terroriste. Elle l'a répété aujourd'hui à la barre, elle n'a jamais pensé que cela pourrait être pénalement répréhensible. Pour elle, il en va de sa liberté d'expression et c'est très remonté qu'elle s'est exprimée à la barre et largement devant les micros.
Oh bah écoutez, ça s'est très bien passé. Je crois que nous étions confrontés là à un détournement sauvage, si je puis me permettre, de procédure. Et que le parquet s'est, je le pense, déshonoré pour tenter d'empêcher la liberté d'expression et presque la légitime défense dans cette affaire de l'élu que je suis. Moi, je veux bien quand le procureur dit que ça n'est pas parce qu'on poursuit quelqu'un qu'on est obligé de poursuivre tout le monde, mais quand on ne poursuit que Marine Le Pen, ça commence quand même à devenir suspect.
L'article de loi utilisé ici pour les poursuites concerne la protection des mineurs et le fait de diffuser des images à caractère violent. Marine Le Pen et ses avocats ont ironisé en disant que dans ce cas-là, il fallait poursuivre beaucoup de monde. Le parquet a requis 5 000 euros d'amende.
Chloé Triomphe qui a donc suivi ce procès pour Europe 1. Le jugement a été mis en délibéré au 4 mai.
La démission du directeur de Sciences Po Paris, Frédéric Mion.
Conséquence de l'affaire Olivier Duhamel, accusé de faits d'inceste. Des soupçons dont Frédéric Mion avait été mis au courant en 2018. Par ailleurs, une enquête pour recherche des raisons de la mort est ouverte à Nanterre. Après qu'on a retrouvé un étudiant mort dans sa chambre universitaire, celui-là même qui avait accusé sur Twitter un élu communiste de Paris de l'avoir violé.
À Washington, la procédure de destitution lancée contre Donald Trump va donc aller à son terme. La majorité des sénateurs a décidé cette nuit qu'il était était possible de juger l'ancien président pour des actes commis durant son mandat, bien qu'il ait déjà quitté ses fonctions.
Et ce soir, le chef des procureurs démocrates le qualifie d'incitateur en chef de l'assaut contre le Capitole. On en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Deux procédures d'impeachment pour le même président, c'est du jamais vu aux États-Unis.
Oui.
Mais ce que vous nous dites ce soir, Didier, c'est qu'en fait, Donald Trump, il ne risque pas grand-chose, aucune condamnation.
Bon, ça serait effectivement une énorme surprise, parce que pour le condamner, il faudrait une majorité qualifiée au Sénat, c'est-à-dire 67 voix, et donc un bastonnement de 17 élus républicains, ce qui est hautement improbable, puisqu'ils n'ont été que 6 cette nuit à joindre leur vote aux 50 sénateurs démocrates. Alors c'était suffisant pour pouvoir lancer la procédure, c'est donc assez fort symboliquement, mais ça n'ira pas plus loin, et en fait, personne n'y tient vraiment, parce que, évidemment, le Parti républicain reste très ambivalent dans ses rapports à Donald Trump, parce qu'il est toujours très dépendant de ses électeurs les plus radicaux, ceux qui ont participé justement à l'assaut du 6 février contre le Capitole et qui refusent de le condamner. Puis côté Maison-Blanche, l'équipe de Biden ne voit pas bien qu'est-ce qu'elle a à gagner dans cette affaire qui finalement ne débouchera pas sur grand-chose, mais qui risque de lui faire perdre du temps alors qu'elle voulait commencer rapidement à faire voter ses réformes. Donc tout a été fait pour éviter que la procédure de destitution tourne à la foire d'empoigne, et les deux groupes parlementaires ont décidé de limiter les auditions à une durée d'une semaine sur des plages horaires en plus qui permettront de poursuivre le travail législatif.
Alors pourquoi à ce moment-là avoir voulu absolument engager cette procédure d'impeachment ?
Eh bien pour marquer le coup, parce qu'il est quand même difficile de ne pas réagir quand un président battu appelle ses partisans à marcher sur un parlement en séance pour faire pression sur les députés qui sont en train de valider les résultats d'une élection présidentielle. C'est bien ce qu'ont prouvé les vidéos tournées par les émeutiers eux-mêmes, projetées cette nuit lors de l'audition, et où on voit Donald Trump lancer à ses fidèles rassemblés devant la Maison-Blanche ce cri du cœur « Battez-vous comme des diables ou vous n'aurez plus de pays ». C'est une exhortation qui déclenche le mouvement. Et ça, c'est bien la définition juridique d'un appel à la sédition.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h.
En France, des parlementaires veulent une réglementation plus souple du CBD que l'on trouve dans les feuilles et les fleurs de chanvre.
Oui, ils appellent à sortir des préjugés sur les cannabinoïdes parce que, disent-ils, le CBD a de nombreux intérêts.
Et ils rappellent également, Justin Morin, que la filière est prête et qu'il y a derrière un énorme marché.
Oui, entre 1 et 3 milliards d'euros, des milliers d'emplois, notamment dans les secteurs ruraux comme la Creuse. Pourquoi s'en priver ? Voilà ce que dit ce rapport parlementaire réalisé par des députés de tous bords. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut surtout pas confondre le CBD inoffensif et légal, qui a un effet de relaxant musculaire quand on l'utilise dans une tisane par exemple, et le THC, autre molécule retrouvée sur la plante de cannabis, psychotrope et elle bien interdite. Le problème, c'est que le CBD souffre justement de cet amalgame, donc la législation est encore trop floue et empêche le marché de s'étendre. Or, il y a des vraies vertus pour soulager des arthroses par exemple ou des insomnies, et ce qu'on sait moins, c'est qu'en France, nous cultivons déjà le chanvre. Ces fibres sont utilisées pour faire de l'isolation thermique, par exemple. Donc un feu vert pour extraire le CBD serait réellement porteur pour toute une filière, explique Aurélien Delecroix, président du syndicat professionnel du chanvre.
En France, on est le leader européen de la culture du chanvre, avec près de 17 000 hectares de chanvre cultivés. La filière, elle est prête aujourd'hui. Je pense que les propositions qui ont été formulées vont permettre justement de ainsi massifier et démocratiser les produits à base de CBD.
La décision finale reviendra à la MIDELCA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Les professionnels du secteur espèrent une décision avant l'été.
Merci Justin Morin. Et puis on vient de l'apprendre, le festival Solidays, nouvelle victime du Covid.
Il devait se tenir du 18 au 20 juin à l'hippodrome de Longchamp, près de Paris, avec notamment les Black Eyed Peas, Sean Paul et Damso. Voilà.
Triste.
Mais oui.
Hein, triste.
Mais oui,
bon.
Bien sûr.
Merci Isabelle, on vous retrouve demain à partir de 18h évidemment. La météo avec Anissa, attention au fort risque de verglas demain.
Oui, surtout pour les régions, Julien, situées au nord de la Loire où les températures vont encore bien baisser demain matin. Et avec la neige tombée hier, la formation de verglas sera inévitable et dangereuse. Prudence donc si vous prenez la route. Prudence également à pied, hein. Les trottoirs sont par endroits très glissants. Sur la moitié sud demain, de la Nouvelle-Aquitaine à la région Rhône-Alpes-Auvergne, ce sont les brouillards qui seront nombreux et très épais par endroits. Après la dissipation de ces nuages bas, le temps est assez lumineux et ensoleillé. Ça fait du bien d'annoncer une journée ensoleillée, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, mais bon... Comme d'habitude, une perturbation arrive et c'est à l'ouest que le temps va se couvrir avec de la Bretagne au Pays Basque, des petites gouttes et le retour des flocons pour la Bretagne. Les températures, je vous le disais, très froides demain matin avec moins 13 à 0 degrés au nord de la Loire. Nous aurons moins 8 degrés à Paris avec un ressenti plus bas encore hein, avec le vent qui souffle. Et 1 à 9 degrés sur la moitié nord, sur la moitié sud demain matin, 9 degrés à Ajaccio par exemple.
Oui, le coup du soleil, vous me l'avez fait hier et cet après-midi, il faisait quand même très très froid à Paris. Hein. Ça
oui,
a pas duré longtemps.
Mais il y avait du soleil.
Bon.
Vous étiez dans
donc,
votre bureau, certes,
voilà.
Mais il y avait du soleil.
On n'a pas beaucoup profité. Mais ça fait du bien un petit peu de.
On va avoir quand même un petit peu de
vitamine solaire.
Pas mal de journées très ensoleillées jusqu'à ce week-end là. Ça
bon,
va être sympa.
Ça, c'est déjà ça de prix. Merci pour ces bonnes nouvelles, Anissa. On vous retrouve demain, évidemment, à partir de 18h. Dans quelques secondes, le débat. Comment en finir avec le tabou de l'inceste et des agressions sexuelles sur mineurs? On en parlera avec nos invités. D'abord, la carte blanche signée ce soir, Nicolas Bouzou.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et c'est l'économiste Nicolas Bouzou qui est avec nous comme chaque mercredi. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Alors, un peu de soleil aussi du côté de l'économie, c'est ce que vous allez nous dire, car vous croyez dur comme fer à un rebond solide de l'économie après la crise.
Oui, je sais que c'est une position qui n'est pas consensuelle chez mes collègues. Alors le vrai rebond, la vraie sortie de crise économique, ce sera quand la Terre entière, quand le monde entier sera sorti de la crise.
Parce et vacciné.
Vacciné, parce qu'on est dans une économie mondialisée. Donc pour que notre économie reprenne, il faut que les économies alentour reprennent aussi. Mais il y aura déjà un premier rebond quand en France, on aura été suffisamment nombreux à être vaccinés pour que les restrictions puissent être levées, donc les restaurants, les salles de sport, les bars, etc. puissent être ouverts. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez aujourd'hui 20% des Français, à peu près les 20% de Français les plus riches, qui ont beaucoup d'épargne. Ils ont économisé pendant cette crise, ils n'ont pas pu consommer autant qu'ils le souhaitaient. Et dès que les restrictions sont levées, je pense que cette épargne, elle va se déverser dans l'économie, ne serait-ce que parce qu'on a très envie de retourner au restaurant, on a très envie de retourner au cinéma, au spectacle. Et vous savez, j'ai regardé l'histoire des épidémies, des guerres depuis la Renaissance. Et à chaque fois, ce que l'on voit, c'est qu'après chacun de ces drames, vous avez une force vitale qui ramène les gens vers l'action économique, qui les ramène vers la consommation, qui les ramène vers le travail. Et ça, ça fait de la croissance.
Bon, ça sera les 30 glorieuses de 2020, en quelque sorte. Ça peut tenir dans le temps, ce rebond solide de l'économie?
Je pense que c'est possible parce que cette crise, elle a obligé les entreprises à incorporer beaucoup d'innovations qu'elles n'utilisaient pas énormément jusque-là. L'intelligence artificielle, on en voit de plus en plus dans les entreprises. Les industries s'équipent en robots. Hein. On avait un retard de robotisation en France qu'on est en train de combler. Et puis bien sûr, le numérique, le télétravail, la cybersécurité, ce sont des choses qui ont pris une ampleur nouvelle à la faveur de cette crise, en réalité. Et tout ceci, ça va générer des gains de productivité, c'est-à-dire de la croissance. Et c'est très important parce que ça veut dire que potentiellement, il n'y aura pas de génération sacrifiée. Vous savez, Julien, on parle beaucoup de cette idée selon laquelle, au fond, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui vont traîner des difficultés tout au long de leur vie. Bien évidemment, quand on est jeune aujourd'hui et qu'on arrive sur le marché du travail, c'est épouvantable.
Oui.
C'est très difficile, on le sait.
Le taux de chômage des moins de 25, je crois qu'il dépasse 20%. Hein.
Bien sûr, et il est en train d'augmenter. Mais le fait que ce soit une situation extrêmement difficile pour eux aujourd'hui ne signifie pas forcément que ce sera le cas demain si on s'organise bien et puis si on est capable aussi de mener des bonnes politiques de relance, de protéger nos démocraties libérales, de protéger la coopération internationale, le multilatéralisme. Je pense même que ces 30 prochaines années peuvent être fantastiques.
Oh là là, ce que vous nous annoncez ce soir, on espère que ça se réalisera parce que ça donne du baume au cœur. Merci beaucoup Nicolas Bouzou pour cette carte blanche du mercredi.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h20, alors ce soir dans le débat du Club des idées, quand la parole se libère, on va s'arrêter ensemble sur cette onde de choc et les réponses surtout apportées par le gouvernement, c'est la nouveauté, face aux agressions sexuelles d'enfants et à la question spécifique de l'inceste. Cela concernerait, je le rappelle régulièrement, 10% des Français, 10% des Français victimes d'inceste. Alors les réponses du gouvernement sont-elles à la hauteur des enjeux? Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance, nous les révélait hier soir en exclusivité au micro d'Europe 1. Prescription, seuil d'âge, inscription de l'inceste dans le code pénal. On en parle donc ce soir avec nos invités. Muriel Salmona, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, auteur du livre noir des violences sexuelles aux éditions d'Uno, sorti en octobre 2019. On en parle également avec Martine Brousse. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'association La Voix de l'Enfant. Et puis Andrea Bescon, autrice, réalisatrice, nous rejoindra dans quelques instants. Alors, on va revenir sur la réponse pénale et ses annonces donc détaillées du gouvernement qui changent la donne tout de même. D'abord, un mot peut-être du constat général. Hier soir, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, parlait de tournant.
Notre société vit un tournant. On est en train de fissurer cette espèce de chape de plomb, notamment idéologique, qui interdisait à la parole des victimes de se libérer. Les réseaux sociaux ont permis cela. Attention, la justice ne se rend pas, vous le savez, sur les réseaux sociaux.
Mais le président a annoncé que ça allait se traduire dans le droit, qu'il y aurait des décisions.
Mais naturellement, parce que la société nous conduit à changer le droit.
Un tournant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat d'abord, Muriel Salmonard?
Oui, tout à fait. C'est le terme d'ailleurs que j'ai utilisé très tout de suite. Pour moi, c'est un tournant historique qui effectivement permet. Alors, non pas, enfin, libérer la parole, elle était déjà là des victimes, mais en tout cas, d'ouvrir, que les gens ouvrent les yeux sur cette réalité-là, et surtout de briser tout le déni et de démonter effectivement toute la propagande anti-victimaire qu'il pouvait y avoir. Et en fait, que tout le monde se place résolument du côté des victimes. Ça, c'est un élément.
Mais vous pensez, Martine Brousse, on va rentrer après dans le détail des mesures et je vais vous demander votre avis, évidemment, car elles sont importantes. C'est une réponse pénale, c'est une réponse judiciaire, mais est-ce que ça peut changer la donne sur l'écoute et la libération de la parole qu'on observe aujourd'hui massivement? Mais c'est ça qui a été tabou pendant longtemps, c'est de ne pas entendre les victimes. Il y avait une forme d'omerta autour de cette parole libérée.
Vous dites si justement, ou le garde des Sceaux l'a dit lui-même, nous sommes à un tournant. Mais c'est un long chemin, et que sur un chemin, il y a beaucoup de virages et des tournants. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'il y a des professionnels qui travaillent depuis des décennies sur ces questions. Notre porte-parole, l'autre jour, disait Carole Bouquet, il y a 30 ans, quand je soulevais ces questions-là, on me traitait de folle.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est que pour être en contact permanent avec ces pédiatres, médecins légistes, avec ces magistrats qui recueillent la parole de l'enfant, il y a des expériences, il y a des pratiques aujourd'hui positives. Donc nous sommes certes à un tournant qui doit nous permettre de renforcer un certain nombre de mesures pour véritablement non seulement libérer la parole, mais si on ne fait pas de prévention, on ne libérera pas la parole. Alors c'est vrai que la Voix de l'Enfant se réjouit des mesures qui ont été annoncées hier, mais il va falloir aller beaucoup plus loin. On ne peut pas se limiter à l'inceste. Des violences sexuelles, il y en a de toutes sortes. Ouais. Il faut prendre l'enfant dans sa globalité, dans sa souffrance, au regard des actes qu'il a subis.
Alors, avant de vous entendre, Andréa Bescon, vous nous avez rejoint. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, autrice, réalisatrice. Vous avez vous-même été victime de viol lorsque vous étiez enfant. Une histoire que vous avez écrite et mise en scène au théâtre dans une pièce absolument remarquable, avant de l'adapter au cinéma dans le remarquable film aussi, Les Chatouilles. D'abord, je voudrais vous faire écouter un témoignage, parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ces affaires médiatiques ont une incidence sur les victimes et libèrent la parole. C'est le cas du témoignage d'une maman qui avait peur de parler, sa fille a été victime d'inceste. Elle s'exprime au micro d'Hélène Terzian. C'est l'affaire du Hamel qui a tout remué en elle. On l'écoute.
Je découvre que mon frère a abusé de ma fille quand ma fille avait 4 ans et demi, sur la simple vue d'une photo découverte il y a un mois et demi. Ça me fait naviguer dans tout un tas d'états. Ça me fait beaucoup de bien parce que je me dis oui, on peut parler, on peut le faire, on a le droit de le faire. Et de l'autre côté, ça fait un mal de chien et ça pose question pour les conséquences. Parce que là, l'auteur présumé dans cette affaire du Hamel, sa vie est détruite médiatiquement. Et donc moi je me dis, si moi je parle, ça me terrorise encore plus, parce que dans ma petite sphère familiale, je me dis je vais détruire, mais j'ai peur que ça me retombe dessus aussi.
Voilà, témoignage très fort, Andréa Bescon. Est-ce qu'on en a propos peut-être général d'abord pour commencer, avant de rentrer dans le détail des mesures annoncées par le gouvernement? Est-ce que selon vous, même question, on en a fini avec le silence, j'allais dire coupable, aussi de la société?
Non, mais en tout cas, il y a un réveil. La libération de la parole, elle existe depuis longtemps, hein, quand même. Maintenant,
mais on n'entendait pas beaucoup.
Non, mais en tout cas, on ouvre mieux nos oreilles aujourd'hui. Je pense que la société est un peu plus disposée à entendre ce qui se passe. Il fait quand même des années, je veux dire, Thomas, il y a beaucoup de monde qui a évoqué les violences sexuelles qu'il avait subies dans l'enfance. Donc oui, on est quand même, encore une fois, un tournant. Maintenant, il faut être vigilant et entamer les mesures nécessaires au niveau législatif, bien sûr, mais aussi sur les formations, mais aussi sur la prévention. Enfin voilà, attaquer le problème vraiment à bras-le-corps, revenir aux racines de la violence.
Vous avez raison de dire que la parole est libérée depuis un moment, mais quand je parle de silence coupable, je pense à tous ceux qui, au moment de la révélation de l'affaire du Hamel, un grand pénaliste notamment, pour ne pas le citer, qui disent « nous savions, mais nous n'avons rien dit ». Est-ce que ça, c'est fini aujourd'hui ?
Je l'espère vivement, puisque ça fait partie du fléau. C'est-à-dire que les pédocriminels vont utiliser cette honte de parler, cette complaisance, cette forme de discrétion, entre guillemets, autour de ce qui se passe à la maison ou dans des cas isolés. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on voit que c'est tout un système. Et ce système-là doit être porté par tous, tout à chacun. C'est chaque personne dans cette société doit prendre conscience aujourd'hui du regard à poser sur ce fléau, quoi.
Oui. Pourquoi c'est si dur de parler, Andréa Bescon ?
Pour beaucoup de raisons. D'abord, des fois, quand on est victime, vous voulez dire, hein,
oui,
c'est ça.
Oui.
Ce qui est compliqué, d'abord, il y a plusieurs facteurs. Hein, Muriel Salmona en parlerait mieux que moi, hein, mais il y a d'abord l'amnésie traumatique, hein, qui concerne énormément de victimes de violences sexuelles dans l'enfance. C'est-à-dire que pendant parfois des décennies, on peut avoir complètement oublié ce qui nous est arrivé. Et puis ensuite, les viols reviennent avec une précision clinique. Et donc ça nous empêche pas de parler. Mais évidemment, il y a aussi la honte, la culpabilité que l'agresseur nous a fait porter en tant que victime, la peur de désintégrer sa famille, la peur de désintégrer ses proches, la peur d'être rejetée aussi, puisque ça arrive bien souvent, malheureusement, on le voit dans beaucoup de familles, que les personnes qui révèlent les violences sont celles qui sont rejetées. On fout la merde, en fait.
Oui.
Donc oui, tout ça est à changer, ce rapport-là. Alors, comme disait encore une fois Muriel Salmona tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les victimes parlent et qu'elles sont quand même mieux accueillies. Avant, on était quand même un peu plus insultées. Aujourd'hui, ça change, quoi.
Alors, vous restez avec nous, Andréa Bescon. On reste avec, évidemment, nos invités. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants et on va rentrer dans le détail de ces mesures annoncées par le gouvernement. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, passé de 1 minute, la suite du débat du Club des Idées. Quand la parole se libère, on parle ce soir ensemble de cette onde de choc et des réponses aussi apportées par le gouvernement. C'était hier soir, à ce micro, en exclusivité, Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance, nous révélait donc les mesures que s'apprête à prendre le gouvernement pour mieux punir ces crimes sexuels contre les enfants. Adrien Taquet qui est notamment revenu sur la mesure autour du seuil d'âge. Écoutez-le.
Le gouvernement est favorable aujourd'hui à ce que soit défini effectivement un nouveau crime. C'est-à-dire que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 15 ans est un crime sans qu'il ne soit plus question de consentement. Aujourd'hui, c'est l'âge de la victime qui sera la première chose qu'on interrogera et non pas de savoir si la victime était consentante ou pas.
Martine Brousse, vous êtes présidente de l'association La Voix de l'Enfant. C'est une avancée évidemment très très importante. Alors, il y avait une polémique au Sénat notamment sur un seuil d'âge fixé à 13 ans. C'est 15 ans qui sera finalement retenu par le gouvernement. J'imagine que vous accueillez cette mesure très très favorablement.
Nous nous félicitons de cette mesure que nous appelions de nos voeux depuis des années. Et nous l'avions fait aussi dans le cadre d'une mission pluridisciplinaire qui avait été mise en place par le précédent Premier ministre au moment de la loi de 2018, où nous voulions déjà, et je sais que Mme Salmona
avait renoncé aux 15 ans. Ça coincé avec le Conseil d'État,
La Voix de l'Enfant est très claire là-dessus. Elle demande un seuil de 15 ans avec circonstances aggravantes en ce qui concerne les situations d'inceste. Et elle demande aussi qu'on prenne le temps d'étudier qui est peut-être dans le texte une différence d'âge.
Oui. Hein,
parce que deux mineurs qui tombent amoureux et que le plus âgé devient majeur, si après il est poursuivi pour viol sur mineur...
C'est ce qu'a
je voudrais quand même rappeler que là, ce sont des annonces de ministres, mais que c'est une proposition de loi, ce n'est pas un projet de loi,
Absolument.
C'est une proposition de loi portée par les parlementaires et les députés et les sénateurs. Donc il va nous appartenir à nous, les associations, les professionnels, de faire valoir aussi toutes ces questions-là.
Hein. Oui.
Et puis, dans cette, il va falloir aussi qu'on se pose la question des mineurs entre eux. Parce qu'il faut savoir que le nombre aujourd'hui, et nous le savons par nos unités d'accueil, où nous recueillons la parole de l'enfant à l'hôpital, les UAPED, par des gens formés, eh bien,
il y a de plus en plus
d'agressions, de viols, de mineurs plus âgés sur de jeunes mineurs. Et là, il va falloir aussi que ça ait qu'il y ait une réflexion et que ça fasse partie de la loi.
Alors, Muriel Salmona, vous êtes, je le rappelle, psychiatre, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. 15 ans, 15 ans, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'histoire de consentement. C'était le grand sujet de débat depuis maintenant plusieurs mois. Il n'y aura plus d'histoire. En dessous de 15 ans, le consentement n'existe pas.
Oui, alors ça, c'était vraiment un élément extrêmement important. Et effectivement, on s'est battu pendant de nombreuses années pour obtenir ça. Parce que ça, c'était vraiment... Ça, c'est quasiment cruel et inhumain d'aller chercher.
C'était presque une anomalie française.
Oui.
Tous les pays européens autour de nous avaient des
soldats. Il y en a qui sont en dessous encore.
Il y en a qui sont en dessous.
Il y en a encore qui sont en dessous, puisqu'on fait ce droit comparé avec des pays d'Europe.
Oui.
Il y en a malheureusement qui sont encore.
J'entends André Abescon qui dit il y en a qui sont au-dessus encore.
Oui, il y en a bien sûr qui sont au-dessus.
La Belgique vient d'adopter 16 ans.
Oui, et puis surtout nous, on n'en avait pas de seuil d'âge, c'est ça qui était complètement inadmissible.
Oui.
Alors nous, ce qu'on espère, c'est que ça concerne aussi les agressions sexuelles, parce que pour l'instant, on ne nous parle que de pénétration.
C'est la question que j'allais vous poser.
Nous aussi.
Les ministres ont parlé de pénétration. Voilà.
Demandons agression sexuelle.
Oui. Et puis aussi, nous, on aimerait aussi qu'on considère, alors effectivement les mineurs, parce que c'est 25% des auteurs qui sont mineurs, et qu'on fasse un peu comme au Canada, où il y a une loi qui est très bien adaptée, avec des seuils d'âge aussi, par rapport à des crimes commis par les mineurs. Et puis on voudrait aussi qu'entre 15 et 18 ans, il y ait une spécificité par rapport à l'inceste, qui n'est pas aussi de recherche de consentement par rapport à un adulte qui, avec un enfant qui est victime d'inceste. Et puis aussi au niveau de l'autorité. Enfin, on voudrait que disparaisse l'atteinte sexuelle.
André Abescon, peut-être une réaction sur ce point. Et j'ai envie de vous poser la question un peu provoque. Qu'est-ce qu'on a foutu tout ce temps? Qu'est-ce qu'on a foutu? Pourquoi on a attendu si longtemps?
Non, il y a eu des choses de fait. Moi, je ne peux pas accepter. Ça fait, la Voix de l'enfant va fêter ses 40 ans cette année.
Mais je parle de la réponse gouvernementale.
Non, non, mais la réponse, il y a eu des lois quand même. Il y a eu des lois qui ont permis d'avancer. Là, il y a une vraie volonté politique qui refonte et qui va plus loin.
Non, mais seuil de non-consentement, rien n'existait. Donc, c'est une vraie avancée.
Non, là-dessus, je suis d'accord. Ça vient renforcer.
C'est très innovant. Ça vient renforcer. Ça vient naître, en fait, en France, qui est quand même assez dingue. Bon, maintenant, la seule chose que moi, j'aurais rajouté par rapport à Martine et Muriel, j'ai pas grand-chose à rajouter. Elles ont tout dit. Mais moi, il y a juste un terme qui m'a inquiété du garde des Sceaux hier, qui disait « dès lors que l'auteur des faits connaît l'âge de la victime ou ne pourrait l'ignorer. » Donc là, ça me pose un petit problème, cette phrase-là, parce qu'on se demande si, du coup, il n'y aurait pas une faille dans laquelle pourraient courir tous les agresseurs en disant « Moi, je n'étais pas au courant de son âge. Vous voyez bien que cet enfant de 12 ans est formé comme une femme de 20 ans.
Oui. »
Donc, il faut être extrêmement vigilant. Il faut une vraie tolérance zéro sur les viols et également sur les agressions sexuelles, puisqu'on sait très bien que des attouchements, qui est un terme horrible, mais en tout cas des caresses sexuelles sans pénétration sur un mineur de moins de 15 ans infligé par un adulte extrêmement traumatisant et peut désintégrer un enfant.
Il y a un vide, ça n'a pas été abordé dans les annonces gouvernementales. Muriel Salmona.
Oui, et puis je voulais justement pour rebondir sur ce que disait Andrea, qu'effectivement, par exemple, la loi canadienne stipule très précisément que c'est vraiment au majeur de vérifier l'âge, l'âge des victimes. Ça repose sur eux, c'est leur responsabilité. Tandis que là, bon, les choses, on va voir un peu comment ça va se présenter. Mais...
Alors, il y a une autre annonce qui a été saluée. Vous réagissez dans quelques secondes, Martine Brousse. Adrien Taquet, qu'on écoute, c'est sur la question du seuil de la prescription glissée. On va expliquer ce que ça recouvre comme expression.
La philosophie, c'est d'assurer une égalité de protection pour toutes les victimes d'un même auteur. Dans ces affaires-là, il y a souvent plusieurs victimes. Et ce qui se passe, c'est que souvent... La prescription est passée pour une grande partie d'entre elles, mais pas pour une. Nous allons adopter un mécanisme qui s'appelle la prescription glissante. Et en fait, c'est-à-dire que le mécanisme de prescription de la dernière victime va s'appliquer à l'ensemble des victimes du même auteur. Et ça va permettre à l'ensemble de ces victimes de pouvoir bénéficier d'un procès.
Voilà, ça n'est pas totalement l'imprescriptibilité, mais ça permet effectivement de rendre... imprescriptibles, des faits qui peuvent être commis au-delà de 30 ans, pour parler tout à fait simplement, Martine Brousse. Ça aussi, c'est une avancée importante?
Non, pas pour la Voix de l'enfant. Pourquoi? Parce que nous pensons que, d'abord, l'imprescriptibilité, elle doit être réservée aux crimes contre l'humanité. Pour nous, c'est important. Et d'autre part, nous pensons, et nous rejoignons, ça a été aussi une intervention d'Eva Thomas, qu'à un moment donné, il faut aussi une date butoir. Et la Voix de l'enfant fait une proposition, certes.
Pour quelle raison vous pensez qu'il faut une date butoir?
Pour ne pas que les victimes s'installent dans une victimisation. Nous voyons, nous, au travers... Et pourquoi? Il y a une autre raison beaucoup plus importante pour nous aujourd'hui.
Oui.
C'est que vous dites, le gouvernement, oui, il y a une volonté. Il y a une volonté du président aujourd'hui de faire avancer les choses. Mais demain, il y a l'imprescriptibilité. Pourquoi mettre en place de la prévention? Pourquoi mettre, on va attendre que les gens aient la force ou le pouvoir?
C'est la prévention, c'est le pas fait du curatif.
Nous misons tout sur la prévention dès le plus jeune âge, dès la maternelle jusqu'à la terminale.
Chaque année, sur tous les ans,
il faut qu'il y ait des professionnels qui passent dans chaque classe, parler de ces questions. Et je peux dire ce qu'André a réalisé, qui sont trois petits livres absolument extraordinaires de prévention, mais il faut, parce que tant qu'on ne parlera pas prévention, et c'est ce que nous allons demander dans cette proposition de loi, que la prévention soit au cœur du dispositif, parce que sinon on reste dans le répressif, et le répressif, vous l'avez souligné vous-même, Muriel Salmona et Andrea, on n'avance pas.
Vous n'êtes pas d'accord, Muriel Salmona, sur ce point.
De toute façon, l'État a des obligations internationales de prévenir, de prendre en charge les victimes, et de poursuivre et de punir les auteurs. Tout est au même niveau, et tout est nécessaire. La lutte contre l'impunité est très importante. Par ailleurs, là, par rapport à la prescription, nous, cette mesure, on l'a demandée. La prescription glissante, elle avait été votée, elle avait été proposée par un amendement du gouvernement en juin 2018, votée par le Sénat, elle a disparu en commission mixte paritaire. Donc elle revient. Par ailleurs, et c'est vrai que c'est une égalité des droits, parce que je veux dire, par rapport à des crimes qui ont été commis par un même auteur sur de nombreuses victimes, que des victimes restent en rade et ne puissent pas aller en justice, c'était une rupture d'égalité de droits.
Une forme d'injustice.
Voilà. Donc nous, on voudrait aussi qu'il y ait une levée de prescription en cas d'amnésie traumatique, parce que là, ce n'est pas une position victimaire du tout. C'est des personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir porter plainte parce qu'elles n'ont pas accès à leurs souvenirs. Et il faut qu'elle puisse le faire au moment où ça le revient. C'est lié au traumatisme, c'est pas dépendant d'elle, et c'est lié aussi à la gravité des crimes qui ont été commis. Et puis, je veux dire que pour pouvoir lutter contre l'impunité, on le sait, il faut pouvoir poursuivre les auteurs, même très longtemps après, puisqu'ils peuvent continuer à commettre des violences. Dernière chose, par rapport à l'imprescriptibilité, il n'y a que la France pour lesquelles la prescriptibilité est réservée aux crimes contre l'humanité. Dans tous les autres pays, il y a aussi les crimes de guerre. Il y a plein de pays où l'imprescriptibilité existe aussi pour tous les crimes qui sont...
Les crimes de guerre, c'est autre chose. Et on sait pourquoi l'histoire ne peut...
Mais il ne faut pas dire que c'est que...
Pour les auditeurs, c'est important.
Muriel Salmona, non, mais on va laisser les crimes de guerre de côté. Mais c'est important ce que vous dites. Il y a une imprescriptibilité pour des crimes type viol, inceste dans d'autres pays.
Oui, bien entendu. La Belgique vient de le voter. La Suisse l'a voté. Bien sûr, tous les pays anglo-saxons, ça existe. Et puis, le Conseil de l'Europe a voté une résolution de 1330 avec son assemblée parlementaire pour exhorter tous les pays, justement, à faire disparaître ces délais de prescription et à voter les imprescriptibilités.
Oui, sur ce point, je partage l'avis de Muriel Salmona. Évidemment, je suis pour l'imprescriptibilité parce qu'on parle de 10 millions de victimes. On est sur vraiment un crime encore. Bon, j'ai utilisé ce terme de crime de masse, mais on est sur des violences systémiques. Et surtout, 10 millions de victimes, on n'est plus sur du cas isolé. On doit pouvoir apporter une réponse pénale, évidemment. Et effectivement, par tous les angles, attaquer ce fléau, par la prévention, par la formation des magistrats, la formation de la police, l'accueil. Enfin, tout est à faire, en fait. Donc oui, l'imprescriptibilité, évidemment.
Pour se reconstruire, Andréa Bescon, quand on a été victime, c'est important, la condamnation de son bourreau. Ça fait vraiment partie du travail de reconstruction.
Sur le moment, moi personnellement, je ne l'ai pas ressenti. Aujourd'hui, je le ressens. Aujourd'hui, je le ressens puisque amener un agresseur en cour d'assises, ce qui était mon cas, et pouvoir ouvrir cette boîte de Pandore où d'autres victimes ont pu s'exprimer et on a pu sauver des petites filles, en fait. Vous savez, on a pu sauver des petites filles. Grâce à ça, on a pu sauver des petites filles, des enfants qui ne seront jamais agressés par cet homme-là. Donc, c'est très important. Bien. Ça aide à se reconstruire. Évidemment, on se sent mieux.
Martine Brosse.
On se sent utile.
Moi, je voudrais juste dire que de quoi est accompagnée la position de la Voix de l'Enfant, c'est que nous venons de faire un travail sur la possibilité d'une imprescriptibilité au niveau des procédures civiles. Pourquoi nous faisons cette proposition? Parce que nous l'avons pratiquée. C'est-à-dire que nous avons aussi rencontré des victimes qui ne voulaient pas de procès public. C'est une cour d'assises, ça reste public.
Et donc, on peut choisir.
Non, mais Andréa, s'il te plaît, je voudrais parler. Je ne t'ai pas coupé. Merci.
Mais c'est à huis clos. On peut choisir d'être à huis clos.
Oui, mais beaucoup, la plupart ne le font pas. Donc, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres victimes.
Allez-y,
donc nous proposons une imprescriptibilité dans le cadre des procédures civiles, ce qui fait que très souvent les auteurs, là où nous avons accompagné les victimes, les auteurs ont reconnu, et la victime a été reconnue comme victime. Et plusieurs ont souhaité passer par cette démarche. Et donc c'est une possibilité aussi. Car faisons attention, dès que le pénal s'engage, que tout d'un coup, des victimes qui ne voudraient pas participer ou avoir un procès, eh bien, se retrouvent embarquées dans un procès et mettre leur vie au grand jour et qui ne le souhaitent pas.
Alors, on va poursuivre sur la réponse pénale et sur la réponse judiciaire et ses annonces. Je voudrais simplement continuer à vous faire partager, parce que c'est aussi ça ce qui est en train de se passer en ce moment, un témoignage, celui d'un député de la majorité de l'Eure qui a beaucoup fait parler, car pour la première fois, il a raconté le viol dont il a été victime. Il avait 11 ans. C'est Bruno Questel, victime d'inceste. Il est au micro de Sonia Mabrouk. C'était il y a quelques jours.
À titre personnel, je n'avais pas besoin de m'exprimer pour être bien dans mes baskets. La vie, elle se construit jour après jour. Vous ne pouvez pas oublier, vous n'oubliez jamais. Et il est des moments, des microsecondes où vous vous retrouvez placé dans ce moment précis où vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'un morceau de viande pour la personne qui fait ça. Il faut le transcender. Il faut le transcender aussi pour celle ou de celui avec lequel vous vivez, parce que vous l'aimez, parce qu'il vous aime.
Voilà, c'est un témoignage évidemment très fort, Muriel Salmona, mais c'est important le témoignage pour qu'on comprenne de quoi on parle. Tout à l'heure, Andréa Bescon nous parlait de la proportion du nombre d'enfants, du nombre de Français qui sont touchés. Alors les chiffres varient, on parle de 10 à 20%. Il y a une image qui est terrible, c'est quand on voit une sortie d'école, ça veut dire que sur 200 enfants, il y en a potentiellement 10 ou 20 qui sont victimes d'agressions sexuelles ou d'inceste. C'est ça la proportion.
Oui, c'est ça. C'est une fille sur 5 et un garçon sur 13. Les chiffres qui sont en tout cas reconnus par l'ONU. On parle d'un enfant sur 5 aussi au niveau de l'Europe. Enfin, il s'agit de ces chiffres-là.
Est-ce que le silence aujourd'hui, qui a été celui de la société, je parlais tout à l'heure de silence coupable, pardonnez-moi si l'expression est un peu maladroite, est-ce qu'elle s'explique aussi par une culture bien française, la culture des années 70, qui a véritablement été une culture pro-pédophile ? Enfin, je veux dire, il faut appeler un chat
oui,
un chat.
Oui, alors, c'est pas que les années 70, en tout cas, il y a cette culture, ce qu'on appelle nous la culture du viol, et puis il y a une un côté totalement décomplexé, où il pouvait y avoir une sorte de d'esthétisation, de théorisation des violences sexuelles sur les enfants.
Ce n'est pas tout à fait fini quand vous entendez Alain Finkielkraut qui parle sur LCI d'un adolescent de 13-14 ans et qui dit que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un enfant. On est quand même encore dans ce discours-là.
Et une sexualisation des enfants et vraiment une vision des enfants comme des objets sexuels, avec particulièrement toute une culture sexiste. Enfin, je rappelle que c'est les filles qui subissent le plus de violences sexuelles et toutes les personnes les plus vulnérables. Donc il y a un côté vraiment de position dominante qui se sert et qui exploite sexuellement les plus vulnérables.
Andréa Bescon, comment vous vivez ce qui se passe en ce moment, par exemple, à Sciences Po ?
Oh, écoutez, c'est vrai que l'arrêt de la complaisance, de cette complicité passive, évidemment, ça fait du bien, forcément, que enfin on paye les conséquences d'un silence complice. On ne peut plus se taire aujourd'hui. On a plus le droit. C'est fini.
Il a fallu attendre les années 90 pour qu'il y ait une prise de conscience autour de la pédophilie. Ça a duré longtemps et je le disais, ça continue aussi encore aujourd'hui avec des propos choquants qu'on entend encore sur des plateaux de télévision ou des radios. Martine Brousse.
Tout à fait. Et je pense que la voix de l'enfant, dans ses propositions au garde des Sceaux, après son audition, nous avons remis une note et au secrétaire d'État, parce qu'il va falloir aussi prendre des dispositions pour poursuivre, pour non-dénonciation. Car il est important, enfin, nous avons pu noter que très souvent, des membres de la famille sont au courant, des voisins sont au courant, ça se sait. Vous parliez de cette culture après 68, mais on a aussi une culture très judéo-chrétienne, on lave son linge sale en famille, on n'en parle pas. Et puis si tu parles, ça va être ta faute si ton père va en prison, et tout est à crédit, la maison, etc. Et donc, il y a cette espèce qui fait peser, comme le disait Andréa, sur les épaules, sur le corps, sur toute la personne de l'enfant, cette responsabilité qui fait qu'elle ne peut pas parler, parce que elle va être doublement, triplement victime. Et puis, même quand elle parle, très souvent, on va lui reprocher que le père aille en prison, que le grand-père aille en prison. Donc, il faut qu'on lève tout ça et qu'on trouve des réponses alternatives à cela. Il n'y a pas
un seul texte de loi qui va permettre justement ce que l'on souhaite toutes, même si on a des divergences, mais elles ne sont pas profondes en soi. Hein, elles sont avant tout que de rechercher ensemble des réponses alternatives, parce que chaque victime est unique. Et donc il nous faut apporter, sa famille est unique, et il nous faut apporter des réponses.
Muriel Salmona, quand on sera dans un tribunal demain, après-demain, une fois que ces nouvelles mesures seront entrées en application, parce qu'il y a toujours la parole de l'adulte contre la parole de l'enfant.
Oui, oui. Alors, d'ailleurs, c'est souvent la parole du dominant contre celle qui effectivement est victime.
Est-ce que cette prise de conscience, cette libération de la parole, appelons ça comme l'on veut, ces nouvelles mesures, cette réponse pénale, est-ce que ça peut changer aussi la donne et le rapport de force?
Oui, parce qu'en tout cas, ça peut permettre d'éviter plein de stéréotypes, de fausses représentations, d'agir, et puis du coup aussi de mettre en accusation, en quelque sorte, l'enfant, en tout cas la victime qui était enfant, et puis. Et puis, nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est que tous les troubles psychotraumatiques, tous les symptômes psychotraumatiques soient beaucoup plus repris et reconnus comme des preuves médico-légales. On travaille au niveau international avec Denis Mukwege, là, qui est prix Nobel de la paix, pour qu'au niveau international, ce soit le cas. Et là, parce que souvent, on reproche aux victimes des conséquences psychotraumatiques, des troubles psychotraumatiques, des réactions qui sont universelles et qui sont normales par rapport aux violences qu'elles subissent. Mais on va la mettre en cause son récit de ce fait. André... Comme la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique.
André Labescon, on parlait de l'entourage. Est-ce que vous me permettez une question plus personnelle sur votre parcours? Je voudrais vous demander, vous répondez si vous avez envie de répondre, mais comment votre famille, vos parents, pour ceux qui n'ont pas vu le film Les Chatouilles, comment ont-ils réagi quand ils ont appris tout cela?
Évidemment, c'est compliqué pour tout le monde. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir été soutenue quand même dans un premier temps par ma famille quand j'ai révélé les faits. Ils m'ont aidée à les porter plainte, donc j'étais soutenue par mes parents, vraiment. Après, il y avait des positions minimisantes de ma mère que je ne vois plus pour ces raisons-là. Mon père est toujours un peu dans une culpabilité et mon frère, lui, est très très fier. Voilà. Bon, après, c'est voilà, on a tous nos chemins, mais il y a des dommages collatéraux familiaux, des dommages collatéraux sur chacun de nous, en fait. Oui. C'est quelque chose d'extrêmement traumatisant pour toute la famille. Et encore, moi, j'ai pas été victime d'inceste, j'ai été victime de pédocriminalité dans l'extra-familial. C'est un ami de la famille. Et déjà là, ça a des conséquences absolument dramatiques. Donc, il faut aider les familles, les accompagner et vraiment faire comprendre les interdits, aider à les faire respecter et surtout accompagner les victimes quand elles sont...
Merci beaucoup, André Abescon. Merci beaucoup pour votre témoignage. Très court, Marc.
Oui, non, juste très court.
Quelques secondes.
Sur un enfant qui est devant une cour d'assises, c'est la terreur. Il faut qu'il soit systématiquement accompagné d'un avocat. Assisté dès qu'il commence à faire des révélations, il faut qu'il ait un avocat et un avocat formé et qui ne soit pas celui d'un ou des parents ou de quelqu'un. C'est son avocat pour lui.
Merci beaucoup pour ce débat. On continuera évidemment d'en parler, notamment dans Europe Soir. On a envie d'accompagner ce mouvement et cette libération de la parole. Merci.
Merci beaucoup.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du Club des idées d'Europe Soir avec les archives. Et ce soir, on va revenir, vous allez voir, sur une histoire d'espionnage absolument incroyable. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
Une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà. Avec Pauline Jacquot, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va replonger en pleine guerre froide, évidemment, l'URSS, les États-Unis, Berlin, c'est une histoire d'espionnage qu'on va raconter, une histoire d'échange, d'agents secrets, de mensonges, de tractations. Nous sommes le 10 février 62, deux hommes marchent l'un vers l'autre sur le pont reliant Berlin-Ouest à Potsdam.
Oui, le jour vient à peine de se lever, il est 8h32 sur le pont de Glinicke. Francis Gary Powers, aviateur américain, toque de fourrure et pardessus sombre, s'avance vers celui que l'on connaît alors sous le nom du colonel Abel, agent du KGB arrêté quelques années plus tôt aux États-Unis. L'un rejoindra Moscou, l'autre s'envolera vers l'Amérique. Powers, capturé deux ans plus tôt par les Soviétiques, est attendu de pied ferme dans son pays natal.
Dès son arrivée, Powers a été soumis à un interrogatoire qui durera probablement une quinzaine de jours, après quoi il sera en état de recevoir les journalistes qui ont eux aussi pas mal de questions à lui poser. En lui passant au cerveau à l'essoreuse, les Américains espèrent tirer de Powers le maximum de renseignements sur sa malheureuse mission.
Francis Gary Powers, 31 ans, avait été recruté par la CIA pour espionner le territoire soviétique. Le 1er mai 60, il est aux commandes de l'un de ces fameux avions de reconnaissance U-2 pour identifier une base de missiles anti-aériens.
Il est en train de survoler l'Oural lorsqu'il est repéré par les autorités soviétiques.
L'avion est abattu immédiatement, le pilote saute en parachute et ignore deux consignes. Détruire son avion et se suicider. Il sera capturé sain et sauf par les Russes, mais les Américains ne sont absolument pas au courant que Powers est vivant. Donc pour ne pas avouer l'espionnage, ils inventent une histoire d'avion météorologique en Turquie, de pilotage automatique qui l'aurait conduit jusqu'en URSS. Mais Khrouchtchev connaît la vérité, puisque Francis Gary Powers a commencé à parler.
Et les États-Unis se couvrent de ridicule, Pauline, à un moment charnière dans cette guerre diplomatique entre l'Est et l'Ouest.
Oui, puisque la conférence au sommet doit avoir lieu à Paris dans 10 jours. De Gaulle, Macmillan, Eisenhower et Khrouchtchev pour apaiser les tensions. Le dirigeant soviétique vient de révéler l'affaire de l'U-2 au Soviet suprême à Moscou. Quelques jours plus tard, le président américain atterrit à Paris.
Monsieur Eisenhower, le président Eisenhower arrive à la hauteur du micro devant l'Assemblée de la Mer.
Monsieur le Président, soyez le bienvenu.
Thank you very much.
Once again, l'espoir de l'humanité nous appelle à tous les quatre pour exclure de nos esprits tout préjugé et toute rancœur.
Mais les États-Unis refusent de s'excuser. Khrouchtchev quitte Paris, échec cuisant de la conférence au sommet. 3 mois plus tard, Francis Gary Powers sera jugé à Moscou.
Tout est prêt pour l'ouverture demain, mercredi, du procès dont les officiels soviétiques, qui sont rejoints pour une fois par une bonne partie de la presse mondiale, entendent faire une des grandes affaires du siècle.
Powers sera alors condamné à 10 ans de réclusion criminelle.
Mais il ne fera que 2 ans de prison, échangé donc contre cet espion russe. Un vrai signe de volonté d'apaisement, Pauline, entre les deux blocs.
Oui, Khrouchtchev passe l'éponge sur un événement qui l'avait amené à saboter, donc cette conférence au sommet. Kennedy accepte de son côté la libération du colonel Abel, qui dirigeait tout de même le réseau d'espionnage soviétique aux États-Unis. Et on l'apprendra des années plus tard, après sa mort. Le colonel Abel s'appelait en fait William Fisher. De son vivant, même pendant sa captivité, il n'a jamais révélé sa véritable identité.
Incroyable histoire d'espionnage, ça fonctionne toujours. Merci pour les archives. Merci Pauline Jacquot.
Europe 1, Julien Bugier.
Alors Émilie Mazoyer, elle n'est pas espionne, mais elle va nous faire vibrer avec la musique. Mais d'ailleurs, c'est quoi le programme ce soir, ma chère Émilie ?
Alors, ce soir, c'est une jeune chanteuse qu'on adore, puisque c'est elle qui a composé le générique de l'émission Musique. Elle s'appelle Pyjama. Et en fait, tous les jingles, tous les génériques de musique sont basés sur sa chanson qui s'appelle Radio Girl. Voilà, elle vient nous voir ce soir parce que cette semaine, elle voulait pas que 2021 soit une année avec une Saint-Valentin pourrie. Du coup, elle sort une chanson spéciale qui s'appelle Bisous et elle va nous la jouer en live dans l'émission.
Ben oui, c'est le 14 février, la Saint-Valentin.
Mais oui, il faut y penser.
Il faut y penser, ben oui.
Attention,
ben oui, bien sûr.
C'est important.
Mais vous aussi, alors.
<J'y pense.
rire> Merci, Émilie. On se retrouve dans quelques instants. Très belle émission. Merci de votre fidélité. Dans un instant, le rappel de l'info avec Julien Pierce. À demain.